Ça va bien ce matin?
On s'est couché à 3 heures.
Oh, on a tellement ri.
Bien, on va lire le logion numéro 12 dans l'évangile de Thomas. Les disciples ont un souci. Vous voyez qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les disciples dirent à Jésus, « Nous savons que tu nous quitteras. Qui se fera grand sur nous ?» Hein, c'est-à-dire, qui c'est qui va te remplacer, quoi. Jésus leur dit, « Au point où vous en serez, vous irez vers Jacques, le juste. Ce qui est du ciel et de la terre lui revient. » Amen. S'asseoir. L'homme a toujours besoin, la femme aussi, hein, faut oublier, toujours besoin de s'en remettre à quelque chose ou à quelqu'un ou à une force qui le dépasse. En fait, les disciples posent la question qu'on pose à tous les gourous. Oui, mais quand tu seras mort, qu'est-ce que ça va devenir ta communauté? C'est pas ma communauté. C'est celle de Jésus. Hein? Qui va prendre la suite? Comment ça? Alors Jésus leur fait une réponse qui peut sembler étrange. Il leur dit, au point où vous en serez, vous irez vers Jacques le Juste. Voilà. Alors maintenant, quand on étudie ce qui s'est passé, on s'aperçoit que Paul, c'est l'envoyé que Dieu a donné aux églises des nations. Et puis il est vrai aussi que selon Matthieu, c'est Pierre qui est désigné pour paître les brebis du Seigneur. Mais en fait, d'une façon plus discrète quand même, la Bible nous montre qu'à Jérusalem, dans l'église primitive, eh bien c'était bel et bien Jacques qui est reconnu comme une colonne. Avant Céphas, avant Jean même, vous trouvez ça dans Galates 2, 9, c'était l'évêque de Jérusalem, c'était Jacques. C'est Jacques qui prend les décisions, c'est Jacques par exemple qui prend la décision d'ouvrir la porte aux païens sans trop heurter les juifs, vous lirez ça dans Actes 15, 13 à 21, sans aussi créer des difficultés nouvelles aux païens, vous savez, qui se convertissent, vous savez, avec cette histoire de circoncision et tout ça. Merci Jacques! Les soeurs, elles s'en foutent, hein, mais bon. La communauté de Jérusalem, enfin, une des maisons communautaires, parce qu'il n'y avait pas qu'une communauté à Jérusalem, vous imaginez, ils étaient au moins 7000 les deux premiers jours. Imaginez une maison avec 7000 personnes. C'était plus que Versailles, hein, là. Non, c'était des maisons communautaires, et la principale, certainement, celle qui était la principale maison communautaire, c'était celle de Jacques, c'était appelé chez Jacques. Voilà. On disait, on va chez Jean-Ton, on va chez Jacques, mais en réalité, c'était la communauté. Acte 21, 18. Paul dit, pour montrer l'importance de Jacques, que Jacques avait dans la première église, il dit, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Vous voyez, il y avait quand même, hein, 1 Corinthiens 15, 7. Et dans les évangiles, Matthieu 18, 1, Marc 9, 34, Luc 9, 46, et Luc 22, 24, alors on voit les disciples poser la question, qui est le plus grand parmi nous? Mais c'est seulement dans l'évangile de Thomas que Jésus parle de Jacques le Juste. Mais on voit après, dans la Bible, que Jacques, en effet, est devenu quelqu'un. Pourquoi est-ce que Jésus cite Jacques? Bien, il le dit. Au point où vous en serez, vous irez vers Jacques le Juste. Ils en seront à un certain point. Jésus voit, il sait où ils en seront à ce moment-là. Pourquoi? Ben parce que Jacques, c'était mieux que la débandade. Hein? C'est mieux Jacques que rien, que la débandade. Jacques avait le sens de l'organisation. Jacques était honnête. Il savait mettre la paix. Et Jésus dit, ce qui est du ciel et de la terre lui revient. On va voir bientôt, on va voir tout à l'heure, qu'est-ce qu'il entend par là. La question que posaient les disciples montrait qu'ils n'étaient pas prêts à s'assumer eux-mêmes. Ils avaient besoin d'un chef. Quand on pose une question comme ça, c'est qu'on est un suiveur, c'est qu'on a besoin d'un chef. Quand on a besoin d'un chef, c'est qu'on n'est pas prêt à s'assumer soi-même, à prendre des responsabilités soi-même. Et l'enseignement de Jésus, quand vous le regardez dans son ensemble, il est loin de l'idée de mettre sur nous un chef. Très loin de ça. C'est le message de Jésus, c'est « Prends-toi en charge ». Mais là, Jésus leur dit, en somme, « Puisque vous n'êtes pas capable de suivre votre maître intérieur, alors prenez Jacques comme maître extérieur. » Pourtant, en vérité, dans l'absolu, Jésus leur enseigne, il dit « Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que quand je serai parti, quand je m'en verrai, quand je m'en irai, le Consolateur viendra vers vous et... Mais si je ne m'en vais pas, je ne vous l'enverrai pas. Et quand le Consolateur viendra, quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » On ne parle plus de Jacques, là. Frères et sœurs, Jésus a pourvu pour que nous ayons un maître intérieur en nous. Pourquoi s'en référer à un maître extérieur? Les ministres de Jésus, je vais me dire, oui, mais alors les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les ministres de Jésus sont juste des ministres de la parole, mais cette parole qu'ils prêchent, elle a son écho en vous, dans chaque personne qui est née de nouveau. La parole qui est prêchée doit être une confirmation de ce que vous avez en vous. Elle est en vous, c'est le Saint-Esprit, c'est son onction qui vous enseigne. Mais si vous n'écoutez pas cette voix intérieure, alors vous avez besoin d'un Jacques. Vous avez besoin d'un maître extérieur. Vous écoutez les prédications, puis c'est là que vous apprenez, puis c'est là que vous comprenez, puis après voilà, vous allez vivre les choses, tant bien que mal. Mais en réalité, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Êtes-vous spirituel? Vous marcherez selon l'Esprit qui est en vous, conduit par ce maître intérieur. Mais êtes-vous charnel? Si vous êtes charnel, alors vous avez besoin d'un Jacques, d'un maître extérieur. Alors Jésus ne demande pas aux siens de réaliser ce qu'ils ne peuvent pas réaliser. Il ne leur fait pas de reproche. Il dit, au point où vous en êtes, il est gentil. Il dit, au point où vous en êtes, il ne les gronde pas. Vous en êtes que là, bon, ben, je vais vous donner Jacques. Au point où vous en êtes. En fait, comme tout maître authentique, Jésus ne demande à chacun que ce qu'il peut donner. Il ne culpabilise pas ses disciples en disant « Ouais, c'est quand même terrible, je vous envoie le Saint-Esprit, et puis vous n'êtes même pas foutu de l'écouter, qu'est-ce que c'est que ça, je vais vous donner Jacques. » Frères et sœurs, ne lisez pas les paroles de Jésus en pensant qu'elles vous sont toutes adressées. Cherchez à savoir à qui Jésus les a dites. Des fois, il parle à des pharisiens, des fois, il parle à des femmes, des fois, il parle à des enfants, des fois, il parle à des hommes, des fois, il parle à des disciples timorés, des fois, il parle à des disciples forts, des fois, il parle à la mer, des fois, il parle au vent, des fois, il parle aux démons. Ne vous appropriez pas toutes les paroles qui sont écrites là. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il était sur la terre, c'était un maître itinérant, un maître extérieur, qui s'adressait à tous et de temps en temps, en particulier, à certaines personnes, dans des situations données, déterminées. Sur la terre, Jésus était un maître extérieur. Et c'est pourquoi il dit de lui-même, il vous est avantageux que je m'en aille. Maintenant, il est notre maître intérieur. Quand il est dit que le Saint-Esprit viendra en nous, c'est lui-même. Il a dit, je serai avec vous, je serai en vous. Il n'y a pas plein de monde en nous, il y a Dieu, un seul Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est lui. Et ce qu'il vous dit à vous correspond exactement à votre niveau de compréhension et de pouvoir. Alors, il ne faut pas oublier d'invoquer son nom. Il est en vous. Invoquez son nom. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Il veut vous parler. Il veut vous instruire. Il veut vous conduire. Il veut augmenter votre intelligence, des choses de l'esprit. Il veut augmenter votre foi. Mais il veut que ça vienne de l'intérieur. C'est bien mieux. Il vous est avantageux de ne plus avoir Jésus comme maître extérieur, ou Jacques comme maître extérieur, il vous est avantageux, c'est mieux d'avoir Jésus en soi. Alors, quand Jésus marchait sur la terre, comme je vous le disais vendredi, c'était un itinérant. Il s'adressait à tous, et de temps en temps à des gens en particulier. Alors des fois, il suscitait l'admiration, des fois la stupéfaction, des fois ça déstabilisait les gens, des fois les gens avaient peur quand il écoutait, ils disaient « c'est fou ». Rarement il était compris, rarement. Maintenant, je voudrais qu'on lise un autre logion, le suivant, le logion 13. Jésus dit à ses disciples, comparez-moi, dites-moi à qui je ressemble. Il ne dit pas, dites-moi qu'est-ce que les gens disent de moi, il dit, dites-moi qu'est-ce que vous. Hein? Simon-Pierre lui dit, tu ressembles à un ange juste. Matthieu lui dit, tu ressembles à un philosophe sage. Thomas lui dit, maître, ma bouche n'acceptera absolument pas que je dise à qui tu ressembles. Jésus dit, je ne suis pas ton maître, car tu as bu, tu t'es enivré à la source bouillonnante que moi j'ai mesurée. Et il le prit, il se retira et lui dit trois mots. Quand Thomas revint vers ses compagnons, ceux-ci l'interrogèrent, que t'a dit Jésus ? Thomas leur dit, si je vous disais une des paroles qu'il m'a dites, vous prendriez des pierres, vous les jetteriez sur moi, et le feu sortirait des pierres, et elles vous brûleraient. Oh, c'est un faux évangile. C'est pas possible. Voilà. Hein. Ça, c'est plus simple, on ne comprend pas, alors on jette.
La stupéfaction. Jésus qui dit à Thomas, je ne suis pas ton maître. Qu'est-ce que ça signifie ? Jésus lui dit, je ne suis pas ton maître extérieur. Pourquoi ? Il lui dit pourquoi ? Parce que tu as bu et tu t'es enivré à la source bouillonnante que moi, le maître extérieur, j'ai mesurée. Ça signifie quoi ? Comprenez cela spirituellement. Un maître extérieur, il donne une mesure. Il mesure et donne une mesure des choses de la source. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici, là, avec mon micro devant vous ? Je vous donne la mesure que j'ai reçue du Seigneur pour vous aujourd'hui. Je ne peux pas tout vous donner. Je vous donne la mesure. Voilà ce que fait un maître extérieur. Dieu, lui, donne sans mesure. Jésus qui est en vous, il donne sans mesure. Mais moi, un maître extérieur, je vous donne avec mesure. Thomas, lui, il a bu, mais à tel point qu'il s'est enivré. Vendredi soir, on était autour de la table avec nos frères et sœurs catholiques et ils ont soulevé dans la conversation les questions concernant l'origine du bien et du mal. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mesuré à la source la part qu'ils pouvaient boire. J'allais pas, en saucissonnant, commencer à rentrer dans toutes ces choses et à leur expliquer et tout. Il y a un temps pour toute chose, amen, mais je vais donner une mesure. Maintenant, si cela correspond à quelque chose qui est en eux, alors ils voudront en savoir davantage. Sinon, ben, ils laisseront couler, puis voilà. C'est pas un problème. Voilà ce que fait un maître extérieur, il mesure. Maintenant, pourquoi dans le logion 12, il dit aux disciples de suivre Jacques, et qu'au logion 13, il semble mettre Thomas sur un niveau supérieur. Puisque Thomas a si bien compris, pourquoi ce n'est pas lui ? Jésus dit à ses disciples de s'en remettre à Jacques pour ce qui concerne la terre et le ciel, car la terre et le ciel appartiennent au monde des phénomènes qui passeront. C'est ce que la Bible nous dit ailleurs dans Luc 21, 33. Jésus leur dit de s'en remettre à Jacques pour ce qui concerne les choses qui passent. Qu'est-ce qui passe ? Jacques devait s'occuper, par exemple, de savoir Est-ce qu'on achète un château? Est-ce qu'on vend l'enveloppe? Est-ce que qui c'est qui a de vaisselle jeudi? Qui c'est qui va faire les courses? Qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Quand c'est qu'on part faire la mission Burkina? Voilà. Jacques, il avait un ascendant naturel, il avait une honnêteté, il avait un sens de l'organisation, un savoir-faire pour gérer les gens et les choses. Il a les qualités qu'il faut avoir pour assumer des responsabilités dans un groupe. D'un groupe très immature d'ailleurs. Et Thomas alors? On va voir ça. Jésus s'est présenté aux douze comme la lumière. La lumière. Alors, toute image qu'on peut se faire de Jésus nous cache son vrai visage. C'est une image. On ne peut voir une image que si la lumière est allumée. Mais l'image n'est pas la lumière. La lumière, elle doit finalement abolir l'image. L'image qu'on se fait. Pierre, lui, il avait l'image d'un ange. C'est-à-dire, on sait que le mot ange signifie envoyé de Dieu. Voilà. Pour Pierre, Jésus était un envoyé de Dieu merveilleux. Matthieu, lui, il avait l'image d'un philosophe. Était-ce faux? Non? Mais ce n'était pas complet. C'était plus que ça. La lumière lui a montré cette chose. Voilà, un envoyé de Dieu. Voilà, un philosophe. Il aurait demandé aux douze, il y en aurait un qui aurait dit un guérisseur, d'autres auraient dit, je ne sais pas, moi, un restaurateur qui donne la bouffée aux gens, ce que vous voulez. Thomas, il donne la réponse juste. Il dit, ma bouche, je ne peux pas. Parce qu'il a bu à la bouche de Jésus, à la source. Et il s'est identifié à la parole que Jésus a dite. Le Logion 108 nous dit, c'est Jésus qui parle, « Celui qui boit à ma bouche sera comme moi. Moi aussi, je serai lui, et ce qui est caché lui sera révélé. » Voilà ce qui était arrivé à Thomas. Alors vous voyez, Thomas ne peut pas dire l'indicible. En tout cas, c'est une chose qu'on ne pouvait pas dire à l'époque. Initié par le maître, il devient maître. Simon, Pierre, Matthieu sont encore des esclaves des images. Au point où vous en êtes. Alors, ils ont une image sur laquelle se bloque la lumière. La lumière, grâce à la lumière, vous voyez ça. Mais elle se bloque. Elle ne va pas plus loin. Derrière, il y a l'ombre. Ce n'est pas la perfection. Bien sûr que ça existe. Vous le voyez grâce à la lumière. Mais s'il y a ça, il y a une ombre aussi. Donc, ce n'est pas la perfection. Ce qu'il faut que vous voyez, c'est la lumière. Arrêtez avec vos images, avec vos idées au sujet de Jésus. Jésus était un maître itinérant, un maître extérieur. Il n'est plus cela. Maintenant, nous le connaissons autrement, dit l'apôtre Paul. Alors, Jésus se retira et il a dit trois mots à Thomas. Qu'est-ce qu'il a dit? Les autres ont dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? Nous aussi voudriez savoir, qu'est-ce qu'il a dit? Alors Thomas dit, si je vous disais une des paroles qu'il m'a dites, vous prendriez des pierres, vous les jetteriez contre moi, et le feu sortirait des pierres, et elles vous brûleraient. Pourquoi? Parce qu'il commettrait un blasphème, le plus grave, celui contre le Saint-Esprit. Pourquoi? Ça aurait été un blasphème à leurs oreilles. Et pourtant, ce n'en était pas un. Mais à leurs oreilles, oui, parce qu'au point où ils en étaient, ça aurait été un blasphème. Alors, je crois savoir ce que c'était ces trois mots. Selon l'analogie de la foi, c'est-à-dire selon ce que nous connaissons des Écritures. Ces trois mots sont trois mots qu'aucun homme n'avait jamais dit. Jésus se retira, et de tout mon cœur, je ne crois pas me tromper, Jésus a dit à Thomas, « Je suis lui. » En fait, je suis Dieu. Et frères et sœurs, si la parole demeure en vous, Jésus dira plus loin, au Logion 108, « Vous deviendrez ce qu'il est. » Thomas devenait destructible, parce que maître extérieur, lapidable autant que Jésus, crucifiable autant que lui. Vous voyez, Jésus est la parole de Dieu faite chair. Il est un maître extérieur aux gens. La parole itinérante de Dieu s'adressant aux uns, aux autres. Mais aujourd'hui, c'est différent. Il est en nous. Il est Dieu en nous. Ce qui fait de nous des dieux qui mourront comme des hommes. Nous sommes des dieux destructibles. Parce que des dieux itinérants, des maîtres itinérants, des envoyés de Dieu itinérants, des philosophes de Dieu itinérants, des guérisseurs itinérants, sur cette terre extérieure aux choses. Car, Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, c'est Dieu qui vit en moi, c'est Dieu est dans ma chair. Conduit de l'intérieur. Et ça, mes frères et sœurs, je le crois. Il a prédestiné tous mes jours. Est-ce que vous avez conscience qu'il a prédestiné vos jours? Oui ou non? Alors pourquoi vous vous inquiétez? Il est celui-ci. Il est en nous. Et aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a fait. En ma faveur. Est-ce que vous pouvez dire ça? Aujourd'hui, c'est un jour que Dieu a fait en ma faveur. Pouvez-vous dire ça? Si vous pouvez dire ça simplement, autrement qu'un religieux bête qui répète, mais avec la conscience que voilà, ça c'est vraiment la parole de Dieu qui est en moi. Ce jour-ci a été fait par Dieu pour moi. Alors je ne craindrai rien. Il renouvelle mes forces. Quand demain? Non, aujourd'hui. Il les renouvelle de l'intérieur. Si seulement j'impose le calme à la tempête, parce que si je n'impose pas le calme à la tempête, alors la tempête va me fatiguer. Est-ce que vous avez une tempête qui vous fatigue? Quelque chose qui vous arrive, des vagues qui se soulèvent, et vous êtes là, « Oh, mais nous périssons, on est en train de couler. Oh, regarde, tout est en train de couler. Oh, quelle horreur !» Ou est-ce que vous prenez l'autorité en disant « Au nom de Jésus, cette tempête, je la calme. Vent, tais-toi. Mer, silence !» Voilà. Et maintenant, Jésus en vous renouvelle vos forces. Si seulement je laisse à mon maître intérieur l'autorité de parler par ma bouche afin de faire surgir du néant ce que je veux, qu'est-ce que vous voulez ? Vous savez, aux incrédules, Jésus dit, vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Il dit, vous ne croyez pas en moi qui suis un maître extérieur que Dieu a envoyé, Jean 5, 37, 38. Hein. Vous ne croyez pas en moi, le maître que Dieu vous a envoyé, alors vous n'entendez pas sa voix. Parce que c'est Dieu parle par moi. Vous n'entendez pas sa voix. Vous n'avez pas vu sa face. Parce que quand vous voyez le Père. Sa parole ne demeure pas en vous. Ça glisse sur vous comme de l'eau sur les plumes d'un cygne. Parce que vous ne croyez pas en moi, parce que vous ne croyez pas que Dieu m'a envoyé. Nous, nous croyons en Jésus, l'envoyé, le maître extérieur. Mais maintenant, nous entendons sa voix à l'intérieur de nous. Bien sûr, on peut entendre ce qu'il a dit autrefois. On peut le lire. On peut l'étudier. Mais maintenant, nous l'entendons en nous, parce que maintenant, il nous dit les choses à nous. Personnellement, il vous parle à vous. Il vous dirige vous. Ce qu'il a dit à Noé, c'était pour Noé, construire une arche. Maintenant, ce n'est plus une arche, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que vous lui posez la question? Est-ce que vous vous mettez dans le silence? Est-ce que vous allez là où il faut? Il est en vous. Sa parole, c'est son esprit, c'est lui. Je suis lui. Et si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Alors beaucoup demandent mais ne reçoivent pas parce qu'ils demandent au maître extérieur. À Jésus à l'extérieur d'eux. Ils n'ont pas compris. Ils oublient que maintenant Jésus est en eux. Si vous l'écoutez, si vous écoutez sa voix à l'intérieur de vous, dans la méditation, dans le silence, vous entendrez ce que vous devrez demander. Mais combien de gens peuvent être dans le silence plus de 10 minutes?
et vous recevrez parce que vous saurez les choses qu'il veut. Si vous écoutez, vous saurez les choses qu'il veut, alors vous saurez ce qu'il faut demander. Vous demanderez selon sa volonté. Mais comment voulez-vous connaître sa volonté si vous ne l'écoutez pas? Vous écoutez que votre volonté. Moi, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça maintenant, je voudrais ça dans 2 mois, je voudrais ça comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Ça, c'est ce que vous voulez, c'est légitime. Mais maintenant, écoutez ce que lui veut et faites comme lui veut. Et croyez qu'il vous guide et croyez qu'il est le bon berger. Il vous mènera là vers les eaux paisibles. Il vous donnera pas des pâturages pourris et du maïs transgénique. C'est ça le secret de la prière exaucée, de la satisfaction d'une vie spirituelle accomplie. C'est d'avoir ces moments de silence où on écoute ce que le Saint-Esprit dit en nous. L'écoutez-vous? Entendez-vous sa voix en vous-même, vous parler, ou est-ce que vous en êtes au point où vous avez besoin de Jacques? Qu'est-ce que tu penses, frère? Michel, qu'est-ce que tu crois? À ton avis, qu'est-ce que je devrais faire? Bien sûr, je peux donner des conseils, bien sûr, le Seigneur peut m'inspirer pour vous dire quelque chose. Sœur Dorcas, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? C'est vraiment un signe de manque de spiritualité. Bon, c'est bien, Dieu est d'accord, ok, au point où vous en êtes, vous avez besoin de Dorcas. Au point où vous en êtes, vous avez besoin de Michel Janton. Ah, écoutez-les, c'est bien. Je leur ai donné pour qu'ils vous dirigent, puis en plus je lui ai donné une femme qui fait le programme, voilà.
Telle et telle fait la vaisselle avec telle et telle, parce que s'il ne fait pas avec telle et telle, ça va être l'horreur.
J'ai besoin de Jacques. Nous, on a 3 frères Jacques. On a même des sœurs Jacques, des enfants Jacques, on est gâtés, on est plein de Jacques. Mais n'ayez pas honte, Jésus ne vous fait pas de reproches, il a pourvu pour vous, c'est génial, il est gentil. Mais il veut quand même que vous grandissiez, amen, il veut que vous grandissiez, que vous ne restiez pas des enfants toujours pendus à Jacques, hein, ou à Michel, ou à Dorcas, ou à sœur Suzanne. À l'époque, on avait Camilla, aussitôt qu'il y avait un pet de travers, il fallait vite avoir Camilla. C'est bien, mais attendez, Jésus est en vous. Il peut vous parler à vous. C'est que vous ne savez pas écouter. C'est ça le problème. Je demandais à la sœur, j'avais vu la sœur Dorcas exercer son ministère, c'était à Abidjan, il y a 2 ans, à la Civi avec le frère Gadji. Alors, tous les gens faisaient la queue, elle a prophétisé sur chacun, et boum, 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 et ça tombe pile poil, c'est extraordinaire. Je me dis, mais tu fais comment? Elle dit, ben, j'ouvre ma bouche, le Seigneur la remplit, c'est ma foi, tu peux le faire, tu as la même chose. Mais elle a raison. Elle a raison. Apprenez à écouter sa voix, son esprit qui est en vous. Alors, beaucoup de chrétiens qui en sont à devoir suivre Jacques écoutent en eux. Et qu'est-ce qu'ils entendent? Le gargouillis de leurs intestins, c'est tout ce qu'ils entendent en eux. J'exagère. Je veux dire par là qu'ils entendent, ils prennent leurs pensées pour les pensées du Seigneur. Alors soyez humbles. Il vaut mieux suivre Jacques le Juste que de prendre vos propres pensées pour les pensées de Dieu. Il vaut mieux écouter Jacques le Juste que de jouer au super spirituel, aux paupières qui papillonnent, n'est-ce pas? Et si vous n'êtes pas spirituel, vous n'êtes pas spirituel, puis voilà, c'est tout. Ayez l'humilité, reconnaissez-le, puis grandissez, évoluez. Vous n'avez pas encore atteint la maturité, mais personne ne vous en gueule, personne ne vous en veut. Jésus est le premier à vous aimer, à vous conduire, à vous bichonner, à vous donner toutes les Dorcas, tous les Michel, tous les Jacques, toutes les Suzanne, tous les prophètes, tous les serviteurs de Dieu que vous voulez. Mais il est gentil. Jésus ne vous juge pas. Il dit simplement, voilà, j'aimerais que vous grandissiez un peu. Il ne se moque pas de vous, il ne vous condamne pas. Il vous aime comme vous êtes. Moi, j'ai des tas de défauts. Toujours, je téléphone à Marc, je dis, trompe pas compte, j'ai encore, ça fait la deuxième fois, j'ai perdu le... Il dit, oh, vraiment, mais alors, t'es bête. Je dis, oui, je suis bête. Bon, on t'aime comme ça. Oui, voilà, je suis bête. Ben bon, voilà, il y a des trucs, je suis bête, qu'est-ce que vous voulez? J'ai mes tares. Mais aimez-moi comme je suis. Puis moi, je vous aime comme vous êtes. Puis voilà, puis Jésus nous aime comme on est. C'est ça que Jésus... vous dites amen ou pas? C'est comme ça. Il vous aidera si seulement vous avez conscience, la conscience vraie de là où vous en êtes, vous. Soyez vrai. Hier soir, Seigneur, pardonne-moi à l'avance. Hier soir, on a vu des religieux, vous savez, ceux qui croient, ils ne sont pas tellement spirituels, ils croient avoir le discernement des esprits, alors qu'en fait, ils ont simplement un sale, mauvais esprit de jugement qui leur parle. Ils sont affreux. Moi, ils me font tellement rire. Jésus en vous n'est pas méchant. Jésus en vous n'est pas médisant, ni dénonciateur, ni soupçonneux, ni mesquin. Reconnaissez sa voix. Voyez sa face dans les frères et sœurs. Il est en vous, vous êtes sa face. Donnez-lui la parole, laissez-le parler en vous. Mais pour cela, taisez-vous. Et surtout, cessez de dire des choses contraires à ce que lui dit. Je peux pas. Bon, j'y arriverai pas. Je suis malade. Je ne suis pas encore, mais ça va venir. Je me sens faible. Hein. Oh, j'en peux plus. Vous imaginez Jésus ça, qui dit ça en vous? Mais au contraire, dites sa parole. Je puis tout par celui qui me rend fort. Il est ma guérison, il est mon salut, il est ma haute retraite, il est mon berger qui me guide vers les eaux paisibles, vers de bons pâturages, là où l'herbe est la plus verte. Il me guide sur le chemin. Peut-être je ne suis pas encore, mais il me guide. Je ne manquerai de rien, ni maintenant, ni demain, ni après-demain, et ça jusqu'à la fin des temps. Je ne manquerai jamais de rien. Je suis aimé. Je suis aimé. J'ai des frères et sœurs qui m'aiment. Et en plus, j'ai un luxe, j'ai des ennemis qui m'aident à grandir dans la patience, etc. Toutes ces choses-là. Et ils me font tellement rire. Vous dites, ah bon? Mais oui, Dieu il rit. Écoutez Jésus qui rit en vous. Psaume 2, 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque de mes ennemis, il se moque. Il se moque de ses ennemis. Il rit. Dans les cieux, oui, mais en moi aussi. En moi, Dieu rit. On dit toujours Jésus vit en moi. Dites maintenant Jésus rit en moi. Hier soir, il a beaucoup ri. Qu'est-ce qu'il a ri? Il disait, oh, ils me font tellement rire, Michel. Oh, c'est rigolo. T'as bien fait de m'emmener ici. Qu'est-ce que je ris? De me voir si belle en ce miroir. Tous ces gens qui me condamnaient autrefois. Michel, sale ramasseur d'argent. Parce qu'à l'époque, je prêchais l'abondance. J'étais le premier en France à prendre le message d'Osborne au sérieux. Et je prêchais l'abondance. Et ils ont dit, c'est un ramasseur d'argent, c'est une fausse parole, c'est une parole de séducteur, c'est un faux prophète. Et puis en plus, un orgueilleux, il nous raconte des miracles, mais c'est des faux miracles. Hein? Ils viendront avec des miracles mensongers. Voilà, Michel, c'est des miracles mensongers. Mais ils m'ont rejeté, ils m'ont critiqué. Et hier soir, ils faisaient la queue pour que je mette la dédicace sur mon livre oracle. Jésus riait tellement. Ça devait se voir sur ma tête. C'est rigolo. Soyez sensible à Jésus en vous. Il est gentil, il n'est pas stupide, il a de l'humour, il pardonne, mais il ne se laisse pas piétiner. De temps en temps, il les niaxe un peu, il se moque. C'est rigolo. Gentiment, gentiment. Très gentiment, j'ai fait ça très gentiment. Mais je peux vous voir, c'était adorable, n'est-ce pas? C'est très, très drôle. Adorez-le. Dites, Jésus vit en moi, Jésus rit en moi. Dites, Jésus vit en moi, Jésus rit en moi, Jésus vit en moi, Jésus rit en moi. Amen, amen et amen. Dieu vous bénisse. Alléluia. On applaudit le Seigneur.
Tu nous donnes le temps. On le mettra après la prédication. Hein? Jésus est le chemin, la vie, par sa main il me conduit vers un monde où règne la paix, l'amour, la joie. Entendez-vous dans vos cœurs cette voix qui vous appelle à entrer dans son bonheur éternel. Loin des torrents de la mort, j'ai trouvé le réconfort, la source d'eau de la vie qui jaillit. Jésus est le chemin, la vie, par sa main il me conduit vers un monde où règne la paix, l'amour, la joie. Entendez-vous à toute heure ces coups frappés à vos cœurs par Jésus qui veut y faire sa demeure. Une maison sans violence, loin des cris de la souffrance, j'ai accepté sa présence dans ma vie. Jésus est le chemin, la vie, par sa main il me conduit vers un monde où règne la paix, l'amour, la joie. Il y a des millions de cœurs qui, dans un élan d'amour, acclament Dieu leur sauveur en ce jour. Sur les nuées de sa gloire, il vient redonner l'espoir à tous les hommes assoiffés de bonheur. Jésus est le chemin, la vie, par sa main il me conduit vers un monde où règne la paix, l'amour, la joie. Jésus est le chemin, la vie, par sa main il me conduit vers un monde où règne la paix, l'amour, la joie.